Zero Hour Cat Radio Present, Zero Hour Radio, fréquence Polar Noir.
Look at me.
Les rendez-vous de Zero Hour. Action. Moteur.
Jean-Claude Mézières, bonjour. Je vous remercie de me recevoir dans votre atelier, qui est à la limite du 13e et du 5e, puisque nous sommes dans l'une des dernières petites rues limitrophes du 13e, juste derrière la manufacture des Gobelins et l'école de chimie de Paris. Jean-Claude Mézières, vous apparaissez avec Valérian dans Pilote aux éditions d'Argo en 1967.
Pas aux éditions d'Argo, dans le journal Pilote. Les éditions d'Argo chapeautaient le journal, mais c'était une histoire qui était faite pour le journal, puisque à l'époque, il y avait très peu d'albums, et disons que nous, en tant que Pierre-Christin et moi, puisque on a décidé de faire ensemble cette histoire, la première histoire de Valérian, on ne savait pas du tout que 45 ans plus tard, on serait encore en train de les faire, mais on faisait une histoire de 30 pages, qui était... pour moi déjà un énorme boulot de plus de 6 mois, et on ne savait pas, Goscinny, quand on lui en a parlé, directeur de pilote de l'époque, je ne sais pas s'il était fan de science-fiction, j'en doute, mais il était d'accord pour nous laisser expérimenter des choses, parce que ce qu'il voulait, c'était que le journal soit le plus riche possible, et surtout plus expérimental. Il y avait des westerns, il y avait des histoires de flics, il y avait des histoires de militaires, il y avait des histoires de je ne sais plus quoi. Nous, on a dit, on va faire un truc que personne ne fait en ce moment, c'est une histoire de science-fiction. Et donc, on a fait un premier... balbutiement de bande dessinée qui était Valérian et les mauvais rêves, où lorsque Christin m'écrivait en première page, première case de la première page, Galaxy City, capitale du futur au 23e siècle, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique, vas-y coco, marche. Là, j'avais un petit recul, donc je savais pas du tout comment j'allais montrer des trucs comme ça. Et très vite, on a changé de braquet dans l'histoire, et on a en même temps inventé le saut spatio-temporel pour retourner en arrière. Et là, Valérian retournait chercher un savant fou, c'était encore très cliché comme style d'histoire, mais un savant fou qui s'était réfugié au Moyen-Âge, donc Valérian va le chercher au Moyen-Âge. Et ça nous a permis... de faire que Valérian, d'abord je dessinais des histoires de Moyen-Âge où ça m'était un peu plus facile de m'appuyer sur des dessinateurs qui avaient déjà fait quelque chose, plutôt que d'aller dans des mondes totalement imaginaires. Mais à la première page de l'histoire, Valérian est prisonnier dans une feuille magique, et il y a une jeune fille, une jeune sauvageonne cachée dans la forêt, qui vient le délivrer, et c'est l'Orline.
Avant d'Argo, on vous retrouve avec deux copains qui sont Jean Giraud et Pat Mallet. Vous aviez travaillé donc pour les éditions Cœur Vaillant, Fripounet et Marisette.
Ouais, des copains d'école, parce qu'on avait 15 ans quand on s'est connus. On avait 15 ans et la bande dessinée n'intéressait absolument personne à l'époque. Surtout par les profs de dessin, d'ailleurs. Et j'avais eu des contacts avec des journaux aux éditions Cœur Vaillant, machin, Fleurus. Et on me payait pour faire des petits bouts de dessin merdiques. Mais j'étais imprimé. J'ai ramené un petit chèque à la maison. Mes parents étaient ravis. Mon fils est publié. Et en plus, il est payé pour ça. Incroyable, hein, c'est pas possible. Et donc, quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner un petit peu, j'ai ramené les copains Pat Mallet et Jean Giraud. Et Jean Giraud a explosé, bien évidemment, déjà à l'âge de 17 ans. Il était tellement prometteur qu'il m'a scié les pattes un peu pendant 10 ans après.
Alors, dès cette époque, donc nous sommes à Cœur Vaillant, Fripounet et Marisette. Vous signez, si je ne m'abuse, stoppez-moi si je me trompe, vous aviez signé une aventure de western.
Oui. Tout le monde faisait du western à l'époque.
Et une aventure policière qui s'appelait Les 13 Marches.
Oh, dis donc. Tu vas gratter loin, là.
Exact. C'est pas moi qui ai gratté, c'est Glénat dans les cahiers de la bande dessinée.
Voilà. D'accord, voilà. tout ça était tellement épouvantable que je ne peux pas le regarder. Encore une fois, ça avait le mérite d'exister. Et quand un dessinateur débutant est publié, la première réaction qu'il a, c'est de regarder ce qui a été imprimé dans le journal et de dire « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais ça va pas du tout, ça va pas, il faut que je change ça, il faut que je change ça. » Et c'est l'engrenage pour se remettre en cause et évidemment essayer de faire des progrès.
Mais alors en fait, les 13 marches, ce qui était une petite aventure policière, sont quelque part, c'est un petit peu les prolégomènes, on va dire, de Valérian qui...
Non.
Qui est quand même une sorte de détective
Non, pas du tout.
Alors comment est arrivée exactement l'idée de Valérian? Qu'est-ce qui vous a donné à tous les deux, alors, à Pierre Christin et à vous, l'idée de Valérian détective spatio-temporel?
Nous étions des grands amateurs de littérature de science-fiction, qui à l'époque était très mal vue aussi par les bibliothécaires qui n'en avaient pas, par les directeurs d'école qui n'avaient jamais lu un bouquin de science-fiction, bien sûr, et alors qu'il y avait déjà des très grands écrivains, Isaac Asimov, etc., etc. Je n'ai pas ma Bible de la SF avec moi. Et dans les années 50-60, et notamment La Patrouille du Temps. Bon, La Patrouille du Temps, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave. Tout le monde reconnaîtra.
Je pensais que c'était Asimov, mais
c'était
pas Asimov.
Non, c'était un mec... Oh, ça m'échappe. Bon,
Ray Bradbury?
Non, moins connu, mais bon. Et qui était une histoire de mec qui se baladait dans l'histoire de la Terre.
Richard Matheson?
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je l'ai pas, ça reviendra peut-être. Et donc, on a lu tous ces bouquins-là, plus ou moins intéressants, et s'il y avait, pour moi, l'intérêt de dire, il y a des images extraordinaires à créer, faut y arriver. Bon, c'était un domaine où il y avait eu Barbarella, qui était paru en 1962 dans un journal léger, comme on dit.
V Magazine,
je crois, oui. Et donc, j'avais vu des planches de Barbarella, j'avais admiré le trait extrêmement délié et efficace de Forrest. Je n'avais pas lu l'histoire qui ne pense pas, m'avait pas bouleversé, parce que faut dire que le scénario de Forrest était un peu mal fouchu, mais il y avait des trouvailles et il y avait surtout ce monde totalement différent par rapport à la bande dessinée de l'époque. Mais ça, c'était un truc pour adultes et c'était un truc que les jeunes lecteurs ne connaissaient pas. Moi, je l'ai vu, mais presque un peu après mon début de production. C'est-à-dire que c'est venu quand je me suis vraiment plongé dans la bande dessinée.
Et Barbarella était quand même une héroïne à part entière qui ne partageait pas donc le scénario, enfin la première place du scénario avec un héros masculin, alors que dans Valérian et Laureline, on a bien un couple qui annonce déjà le couple moderne. Nous sommes en 1968, on a la libération de la femme avec Laureline, on a déjà une vision beaucoup plus moderne de la femme. Barbarella, quelque part, même si elle annonce la femme moderne...
C'est la pin-up classique, hein.
Nous sommes bien d'accord.
C'est la pin-up classique.
Elle emprunte quand même à la pin-up très classique, voilà. Alors que Laureline annonce la femme beaucoup plus moderne.
Oui, avec le fait que quand même, tout ça, on n'est pas sorti avec des idées tout armées du cerveau.
Bien disant, entendu.
On va faire ça pendant 40 ans. Tout ça, c'est venu par ajustement. Mais c'est vrai que le caractère de Laureline, Christin a découvert, en faisant dialoguer ses personnages, que c'était beaucoup plus rigolo. On pouvait leur faire dire beaucoup de choses, alors que le héros tout seul dit « Il faut que j'avance jusqu'où la base secrète de... » C'est emmerdant, hein. Alors que là, tac, tac, et alors surtout opposer les deux personnages, leur faire leur ligne à un caractère bien trempé, et elle est parachutée, compagne de Valérian, elle est parachutée au service spatio-temporel, alors que Valérian, lui, est un jeune pilote spatio-temporel, donc issu de l'Académie, de Galaxy T, donc il est dans les rangs, alors qu'elle, quand elle a envie de dire merde aux militaires, elle le dit.
Il n'aura évidemment pas échappé à tous les fans de science-fiction que le célèbre auteur de La Patrouille du Temps, The Time Patrol, édité en 1955, était Monsieur Poole Anderson, auteur de science-fiction né en Pennsylvanie, aux USA, 1926-2001.
Alors on sent une influence très forte dans votre œuvre du côté américain. Il y a un background américain qui est très très fort, très très puissant dans toute la vision graphique de votre œuvre. On le voit aussi dans la façon de la narration de Christin, notamment dans La Cité des eaux mouvantes. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet espace-temps qu'il y a eu dans votre carrière lorsque, avant de créer Valérian, vous étiez aux États-Unis avec Christin et lorsque vous avez réalisé un petit film local pour la télévision locale?
Oui, oui. Enfin, tout ça, c'était des balbutiements. Mais il s'est trouvé que tous les jeunes gens nés de la guerre ou après-guerre ou juste avant-guerre, évidemment il y avait un désir d'Amérique, c'était la modernité, c'était les grands espaces, c'était toute la mythologie que le cinéma américain nous balançait dans la gueule, et on ne savait jamais quelle était la limite entre la fiction et la réalité. L'Ouest américain, personne n'allait s'y balader en touriste, surtout venant de l'autre côté de l'Atlantique. Donc tout ça c'était des rêves, et j'ai décidé de partir et je suis resté un an et demi. Christin, qui avait déjà de la famille, qui avait déjà une femme et un gamin, lui, il est parti, mais comme professeur d'université à Salt Lake City, en Utah. Et dans mes périples, évidemment, à un moment, j'ai été voir, et surtout l'hiver arrivant, où il y avait un mètre de neige par terre, j'ai été voir Pierre en disant « Je peux peut-être coucher sur ton sofa, parce que moi, j'avais pas de bagnole, j'étais en stop, enfin bon. » Donc, et pendant cet hiver-là, 65-66, c'est là où on s'est mis à faire deux petites histoires courtes, que j'ai envoyé à Giraud, qui travaillait déjà à Blueberry, dans Pilote, en lui disant, place ça n'importe où tu voudras, Tintin, à Spirou, à Pilote, je connais pas ton pilote, mais c'est comme ça, et envoie-moi le chèque, parce qu'il faut que je paye mon billet de retour, je n'avais pas de billet de retour. Et la fin de mon visa commençait à approcher, j'ai prolongé avec 6 mois encore de tourisme, etc. Mais là, ça commençait à sentir le roussi, et j'ai pu, grâce à ces deux petites histoires, payer mon billet de retour en avion. Ce qui était quand même un grand progrès. Et c'est pour ça que quand je suis rentré des États-Unis, en allant voir Goscinny à Pilote, il avait déjà publié les deux histoires, alors que moi j'étais reparti à cheval garder les vaches pendant tout l'été.
C'est une très belle histoire. Donc, ce qui nous ramène à La Cité des eaux mouvantes, qui est le premier album donc paru aux éditions d'Argo en 1970. Les dessins ont été réalisés en 1968-1969, c'est bien ça ?
C'est vrai.
Voilà. Et ce qui me permet de faire le pont avec ce qui va suivre, c'est une facette que peu de gens connaissent de vous, c'est que vous avez été photographe, et on sent, encore une fois, en dehors de l'influence américaine qu'il y a dans le traité des décors, on a l'impression des fois de se retrouver en plein Colorado dans certaines...
Ben oui, mais j'y étais.
Voilà.
Excuse.
Et dans La Cité des eaux mouvantes, on sent le New York plus vrai que...
Oui, bah oui, bah, j'ai quand même traîné pas mal de temps à New York. Les photos, j'en faisais très peu. C'est un peu plus tard que j'ai fait de la photo professionnelle. C'est au début des Valérian, 4-5 ans plus tard. Là, je faisais de la photo pour moi. J'ai fait, faut dire, des photos extraordinaires dans les ranchs, parce que, évidemment, dans les sacoches de ma selle, je foutais un appareil photo quand j'avais l'argent pour acheter de la pellicule. Et la pellicule, de l'endroit où j'étais à cheval jusqu'à la ville pour trouver, déjà, ça devait être peut-être 500 kilomètres.
Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston. I got holes in both of my shoes. Well, I'm a walking case of the blues. Saw a dollar yesterday, but the wind blew it away. Going back to Houston, Houston, Houston. I haven't eaten in about a week. I'm so hungry when I walk, I squeak. Nobody calls me friend. It's sad the shape I'm in, going back to Houston, Houston, Houston. Back to Houston, Houston, Houston. I got a girl waiting out for me. Well, at least she said she'd be. I got a home and a big warm bed and a feather pillow for my head. Going back to Houston, Houston, Houston. Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name, just walking in the rain. Going back to Houston, Houston, Houston. Going back to Houston.
Nous sommes toujours dans la cité des Zoomvantes. Nous sommes alors en 1970 lorsque paraît l'album, c'est-à-dire que 30 ans presque avant, Valérian annonce un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma qui s'appelle Minority Report.
Que j'ai pas vu.
Qui est l'histoire d'un détective spatio-agent temporel qu'on envoie dans le temps afin d'éviter des crimes et afin d'éviter des catastrophes donc sur Terre. Ça, c'est une chose. Il y en a une autre et qui m'intrigue, c'est le fait que, je ne sais pas si beaucoup de personnes s'en sont aperçues, mais c'est flagrant lorsqu'on s'intéresse à la bande dessinée, et lorsqu'on s'intéresse d'un œil un petit peu plus pointu au cinéma. Lorsqu'on voit La Guerre des Étoiles de George Lucas, on s'aperçoit qu'il y a plus que des emprunts sauvages qui ont été faits sur certains de vos personnages extraterrestres. Donc la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Peut-on dire aujourd'hui, avec le recul, que le cinéma emprunte de plus en plus à la bande dessinée, comme dans les premières grandes années de son âge d'or, la bande dessinée a emprunté au cinéma?
Ben, je crois que c'est un ping-pong continuel, mais je ne parlerai que de ce qui me concerne moi. Je peux dire, j'ai fait un comparatif que j'appelle rencontres ou emprunts, point d'interrogation, et dans toutes mes expos et dans l'intégrale numéro 1, je montre les images en comparaison. Des amis journalistes, des gens m'ont amené des photos en me disant « t'as vu ça ?» et « t'as vu telle page ?»
C'est flagrant, c'est flagrant.
Bon, il y a des choses très marrantes, et il y a même des choses qui sont amusantes, c'est que par exemple, lorsqu'on prend la séquence de la princesse Leia qui est en bikini doré, elle s'échappe, je ne sais plus du quoi. Moi, j'ai vu le film il y a 30 ans, 40 ans, et je suis pas maso, j'ai pas acheté les cassettes, et j'ai payé ma place au cinéma. George Lucas, non seulement apparemment, a quand même regardé ça, ou ses chefs décorateurs, enfin tout ça, c'est une équipe, hein. La princesse Leia se bat sur le pont découvert d'un navire volant, et alors que dans Le Pays sans étoiles, paru en 1972, huit ans avant l'autre, eh bien, Laureline se bat sur le pont découvert d'un navire volant.
Donc il y a plus que des
dans la même tenue.
Donc il y a plus que des empreintes graphiques, il y a bien une inspiration quelque part au niveau narratif. Pour certaines
oui,
séquences.
Enfin, disons tout mais ça, bon. C'est non mais attention, tout le cinéma est un énorme vampire, se nourrit de tout, de les livres, il y a des trucs qui ont été inspirés par d'autres dessinateurs probablement. Il y a eu, je sais que Lucas a eu des procès avec un dessinateur américain qui lui faisait des villes de dinosaures avec des architectures et des grands défilés, souvent parce qu'on m'a toujours pareil, moi je passe pas ma vie à m'enseigner là-dessus, mais et si les gens s'amusent à regarder sur mon site internet à nous faire, enfin Mézières, vous faites Mézières et vous trouvez facile, et vous verrez le comparatif, et il y a même dans un comparatif que je n'avais pas pris moi, mais il y a un gars qui a trouvé en plus que l'acteur anglais qui joue le chef des gardes noirs, enfin, je ne sais plus comment, et c'est je crois Christopher Lee, si je me trompe,
je pense, oui.
Il a la même tête que l'ambassadeur des ombres dessiné 5 ans avant.
C'est la force d'Internet.
Alors ça, on a trouvé, et les gens l'ont envoyé. Quoi. Mais il n'y a pas que George Lucas. J'ai trouvé d'autres, après, d'autres influences. Donc Conan le Barbare, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu des photos, notamment une photo des grandes cuisines. Je ne sais pas, il y a une troupe qui descend un escalier et qui arrive dans les grandes cuisines où il y a des torches partout, et des corps pendus, etc., et des fosses où les cuisiniers s'affairent là-dedans, eh ben, si tu prends l'image des oiseaux du maître, page 1, j'en sais rien, mais, hein, eh ben, il y a un gars qui s'est dit, ah bah tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Bon, comme ça. Voilà.
Arrêtons avec le plagiat, parce que c'est vrai
si,
que c'est...
Non, mais il y a deux trucs. Alors, dernier point quand même. Dernier point quand même. Il y a aussi, dans le film Independence Day, qui est par un réalisateur allemand émigré aux États-Unis, mais qui a dû lire La Cité des eaux mouvantes en allemand dans sa jeunesse, parce que tous les vaisseaux spatiaux de l'invasion de New York, etc., c'est le vaisseau de Valérian, c'est la forme, comme ça.
Pour clore le débat, est-ce ouais. que...
Il n'y a pas de débat.
Je pense que le débat est sans fin. Est-ce qu'on peut citer un aphorisme, deux aphorismes, qui sont assez humoristiques. Le premier, je pense que c'était de René Goscinny, qui disait que lorsqu'un dessinateur était copié, il recevait son bâton de maréchal. Je pense que c'était Goscinny qui le
disait. Oui, ça me rappelle quelque chose, mais je me souviens
plus. Et Coco Chanel, qui disait qu'il n'y a pas de succès sans imitation.
Cela dit, oui. J'ai tellement d'imitations que ça commence à me gaver un petit peu. Voilà.
C'est la rançon du succès,
bon,
cher monsieur.
C'est tout.
Est-ce que nous pourrions parler, puisque nous avons l'opportunité, nous avons une excellente passerelle entre les deux matières, entre le dessin et le dessin en 3D, le dessin classique et le dessin en 3D que permet maintenant donc l'informatique. Comment voyez-vous l'avenir du dessin au XXIe siècle avec l'émergence d'Internet ?
Ben, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la 3D. Je n'ai jamais vu ça. Personnellement, ça me gave. Et je n'aime pas. Parce que moi, j'aime le trait. J'aime le tracé le plus efficace à toutes les manières possibles. Parce qu'il n'y a pas une manière de dessiner. Il y a 25 000 manières de dessiner. J'avoue que la transposition, j'en viens à un truc très vite, transposition en 3D, donc en rond, des personnages de Monsieur Spielberg qui arrive au Festival de Cannes en a fait l'expérience avec son Tintin, je trouve ça horrible. Bon, point.
Hier soir, je pense que c'était une chaîne qui passait, c'était sur la 8, donc la télévision repassait une des toutes premières adaptations au cinéma de Tintin, c'était Tintin et la Toison d'Or. Il y a un charme, mais infini à revoir ce film, alors qu'à l'époque on considérait ça comme le pire des nanars.
Oui, enfin.
Et comparé à l'œuvre de Spielberg, l'adaptation de Spielberg, qu'on a vu à Cannes, enfin, ce film a infiniment plus de charme.
J'ai dû en voir un, mais il y a eu un des premiers.
Que l'adaptation en 3D.
Moi, c'était.
Tintin et les Oranges Bleues et Tintin et la Toison d'Or.
Oui, mais ça, c'était avec des personnages réels.
Ce sont avec des personnages.
Non. Moi,
avec
je parle
avec Jean-Pierre Salbeau dans le
d'accord.
rôle de Tintin.
Oui. Mais moi, je parle des dessins animés, longs métrages. Oui, d'accord. Mais ça, je les ai pas vus. Par contre, j'avais vu aussi des dessins animés longs métrages faits en Belgique de Tintin, et c'était un truc qui se passait, je crois. C'était plus ou moins une reprise du Temple du Soleil ou un truc comme ça. Je dois dire que le dessin était un peu craignos à l'époque, mais je pense qu'on pouvait y plonger plus que qu'on plonge dans l'univers de la 3D. Je n'en sais rien, c'est pas mon domaine, et je laisse faire les gens qui ont envie de faire ce qu'ils veulent.
Il y a un phénomène irréversible aujourd'hui, c'est la numérisation des livres, des œuvres. Qu'est-ce que vous pensez d'un avenir où on ne pourrait consulter des bandes dessinées que sur Internet ?
Je pense que Dieu ne plaise, hein, et encore les progrès techniques sont très grands. Non, le problème, c'est pas la vision de la page dessinée sur Internet, c'est que l'œil humain couvre l'étendue de la page et de la double page, ce qui est possible à faire maintenant sur des grands écrans aussi. Mais c'est pas la même lecture, c'est pas la même approche, et après, on zoome sur les images. Or, jamais, quand vous lisez un album papier, vous n'isolez, et toutes les cases se suivent et sont, disons, faites pour se composer en mosaïque et donner un récit qui est le plus allégé, le plus dynamique possible. Alors que là, avec Internet, on zoome sur une image, on regarde le texte, on regarde les détails du dessin, et on ne regarde pas à côté. Je sais qu'il y a des Valérians qui ont été numérisés maintenant. J'ai pas de palette, j'ai pas de tablette, j'ai pas de trucs comme ça, donc je m'en fous. Pour l'instant, je veux dire que tant qu'il y a la possibilité de dire je le regarde sur ma tablette ou je le regarde sur l'album papier, très bien. Chacun choisira ce qu'il veut. Hein. C'est le jour où on dira, il n'y a plus d'album papier. Bon. Cela dit, j'ai vu sur Internet une très bonne publicité pour le papier, qui était un père de famille qui montrait à son fils qu'il dessinait sur du papier. Il dit, mais non, tu peux dessiner sur la tablette, etc. On peut tout faire sur la tablette. Et on retrouve le mec aux chiottes et il n'y a plus de papier. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne démonstration que le papier restera encore
à des préoccupations plus littéraires. Simplement pour faire toucher du doigt aux lecteurs, aux nouveaux lecteurs, aux jeunes lecteurs qui ne connaissent peut-être pas encore tout à fait l'univers complet de Valérian et toute la profondeur qu'il y a dans les personnages. Rappelons que, en dehors du fait que vous êtes un dessinateur qui sort quand même diplômé d'une école de dessin.
Oui, mais on faisait pas de bande dessinée, hein, surtout pas. Les professeurs de dessin, il y en a toujours un, le pauvre homme, Dieu et son âme, ou le diable, j'en sais rien, mais qui disait à Jean Giraud, à 17 ans, « Giraud, mais quel dommage que vous fassiez des dessins pour les débiles mentaux, vous avez de l'or dans les mains. » Ben oui, il avait de l'or dans les mains, ça, je ne trompe pas. Mais Giraud a fait une carrière admirable sous toutes ses formes et sous toutes ses créations. Et le pauvre professeur de dessin, s'il voit ça maintenant du haut du petit nuage pour voir la carrière de Giraud, et il s'est bien trompé.
L'anecdote en rappellera une autre concernant les enfants terribles, que ce soit de la bande dessinée ou du cinéma, puisqu'on a un célèbre Jean-Paul Belmondo qui s'est fait virer de la plus célèbre école de théâtre de France, parce qu'un professeur trouvait que jamais il ne pourrait jouer la comédie, jamais une femme pourrait le prendre dans ses bras, etc.
Voilà,
donc tout simplement pour dire que, encore une fois, je veux dire, il faut dépasser les apparences et voir un petit peu plus loin. Ce qui nous amène à reconsidérer le personnage de Valérian, qui a été écrit par Pierre Christin, alias Linus, qui a quand même un passé de sorbonnard, puisqu'il a fait des études à la Sorbonne, il a fait Sciences Po, et on sent dans le personnage...
Et il a surtout fait qu'il a été... Je l'ai dévoyé de sa carrière universitaire, parce qu'il partait en 1967 pour créer le l'IUT de journalisme de Bordeaux, qui existe toujours maintenant, qui a changé de nom, je ne sais pas. Et donc, il a doublé sa carrière entre Paris et Bordeaux, et il arrivait à écrire, il faut dire qu'il n'y avait pas le TGV à l'époque, donc il avait 4 heures ou 5 heures de train, et il pouvait pondre des idées de scénario tranquillement pendant que le train roulait, et il arrivait à Paris en me disant, bah tiens, je commence à écrire le prochain scénario, et on en parlait parce que tout ça se faisait ensemble sur des envies graphiques, puisque il me sortait pas un truc tout écrit en disant plaf, voilà le boulot pour tes deux prochaines années. Quoi.
Alors, ce qui fait la grande force, encore une fois, des aventures de Valérian et de Laureline, ou de Laureline et de Valérian, c'est le fait que, en dehors de récits de science-fiction avec des petits extraterrestres qui sortent un petit peu dans tous les coins et tout, c'est que nous avons une sorte de conte moderne qui nous permet de prendre un petit peu du recul sur les métamorphoses technologiques du monde moderne, sur les avancées de la civilisation. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'emprunts littéraires quand même dans Valérian. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ou nous confirmer que le nom du personnage de Valérian viendrait d'un personnage qui aurait été inventé par Nathalie Enberg dans la collection Rayon Fantastique, Valéran Le prince des ténèbres.
Oui, ça c'est une référence dont je me souviens avoir lu le roman vers les années 65, 66, je ne sais pas exactement. Mais le prénom Valérian est un prénom qui existe en Europe de l'Est. Il y a même apparemment un empereur romain qui s'appelle Valérian. Bon, donc ça, bien sûr, on n'a pas créé ce prénom-là. Par contre, on a créé le prénom de la fille, Laureline, qui est un prénom qui n'existait pas avant que Pierre Christin le trouve. Et maintenant, en France, pour ne parler que de la France, il y a au moins 2000-2500 petites filles et grandes filles, parce que les plus âgées ont 35-40 ans maintenant, qui s'appellent Laureline. Et on me demande de faire des faire-part pour une petite Laureline qui va naître. J'en ai encore eu la semaine dernière. Et comble du bonheur, dans les séances de dédicaces dans certains festivals, je rencontre d'un coup une charmante petite jeune femme rosissante qui me dit « Je m'appelle Laureline », elle me donne son livre. « Et vous savez, mon compagnon, il s'appelle Valérian. » Je n'y suis pour rien, mais j'avoue que ça fait quand même le bonheur de ma journée. Ça.
C'est une très belle histoire.
C'est une belle histoire. Et ça m'est arrivé deux fois, l'année dernière.
Donc en fait, Valérian et Laureline, dans la vie, auraient des clones.
Disons que il se trouverait que cette fille qui s'appelait Laureline a rencontré un garçon qui s'appelle Valérian, et je dois dire que je n'y suis pour rien, mais visiblement ça a fait bling tout de suite. Marrant, c'est étonnant.
Ce sont les mondes truqués dans la réalité.
Voilà, exactement.
Très belle histoire. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous rappeler le nombre d'albums de Valérian et de Laureline qui ont été édités, et notamment le dernier qui va sortir, qui s'appelle « Souvenirs des futurs ou du futur ».
De futur.
De futur au pluriel.
Donc celui-là, il compte pas encore parce qu'il ne sortira qu'au mois de septembre. Mais ça fait 3 ans que je travaille sur ce livre, qui est le cycle Valérian est clos. Et nous avons fait 22 albums, mais il y en a un zéro, il y a le tout premier qui appartient, qui n'est pas numéroté 1, puisque le numéro 1 c'est la Cité des Ombres Mouvantes, mais il y a quand même l'épisode précédent qu'on a réédité récemment, et donc ça doit faire 23 albums, celui-là ça fera le 24e, mais il y a aussi Les Habitants du Ciel qui est l'atlas encyclopédique de tous les extraterrestres que j'ai dessinés dans les aventures de Valérian, il y a le petit recueil Par les chemins de l'espace, des petites histoires courtes parues dans les Super Pocket Pilote de 1969-10. Donc tout ça, je ne sais plus exactement combien de bouquins ça fait, autour de 25. Et donc le prochain va sortir au mois de septembre. Et ce n'est pas la suite de la suite de la suite de la suite de la suite. Nous avons conclu le retour de Valérian et Laureline à Galaxity dans Louvre-Temps. Et après, il y a, comment dire, toujours quelque chose pendant très très longtemps. Quand on l'obtient finalement, les choses sont moins bien que ce que l'on ne rêvait. Et donc, Valérian Laureline, je ne raconterai pas la fin de la fin, mais Galaxity, ils ont passé 15 albums à chercher Galaxity, mais finalement, ça marche pas. Donc, il y a une fin, une autre fin, et ça, nous avons clos l'histoire de Valérian et Laureline, leur quête pour Galaxity. Et comme on n'est pas mort ni l'un ni l'autre encore, on avait envie de continuer à faire quelque chose, et On a eu chacun de Pierre et moi, prétend que c'est lui qui a eu l'idée originale, mais ça prouve qu'on travaille vraiment tout le temps comme ça en accord, d'aller faire des retours à l'intérieur des anciennes histoires pour, dans cet album Souvenirs de futur, ou pluriel, eh bien, d'aller se promener dans le New York de 1986 pour découvrir que Valérian avait rencontré une charmante jeune femme jamaïcaine dans le gang où il était prisonnier et que, ma foi, malheureusement, elle s'est fait descendre par une guerre de gang. Donc, il n'y a rien. Et cet épisode se passe juste avant l'arrivée de Laureline à New York. Bon, enfin, voilà, des trucs comme ça, un petit jeu comme ça, très amusant, où Laureline, dans le futur, se disant, mais si j'avais pas rencontré Valérian dans la forêt au Moyen-Âge, j'aurais peut-être rencontré le fils du roi. Hein? Et ça aurait pu être un jeu. Elle a toujours le moral, Laureline.
Rappelons le premier titre des aventures de Valérian, c'est Valérian contre les mauvais rêves. C'est donc bien le premier album, l'album zéro.
Oui, enfin c'est pas l'album parce que ça fait même pas le nombre de pages. C'est pour ça que d'ailleurs ça n'avait pas été édité sous forme d'album, puisqu'à l'époque, comme ça paraissait à raison de 2 pages par semaine dans Pilote, on avait fait une histoire de 30 pages qui était un étalonnage qui se faisait beaucoup dans le journal Pilote pour des petits récits qui se cherchaient, quoi. Et que ça soit Fred, avec ses premiers Philémon, ont fait un 48 pages, mais avant, il avait fait des scénarios de 30 pages et il en a fait d'autres après. Ça arrivait, on faisait des petites 30 pages parce que c'était le temps de s'installer, de se caler un peu dans les personnages, etc. Et après, ce qui est très symptomatique, c'est que la Cité des eaux mouvantes, qui donc est paru en fait en 2 histoires de 30 pages, Cité des eaux mouvantes, 30 pages, et après Terres en flammes, 30 pages, et qui ont été mixées ensemble avec le fait qu'il fallait impérativement que ça fasse 46 pages, et donc, je crois qu'on en a fait 47 d'ailleurs, mais donc on a dû remonter un peu le truc, parce que ça c'est 3 années plus tard, lorsque la Maison d'Argout a commencé à produire les premiers albums. Blueberry a fait 3 histoires de Blueberry avant qu'ils ne paraissent en album. Les premiers Blueberry datent de 67, 66, 67. Et Giraud avait commencé en 63. Et donc tout ça, c'était... Il y avait quelques albums privilégiés, mais il n'y en avait pas. Et c'est le début des années 70, la popularité du journal Pilote et la mise en vedette de certaines histoires par rapport à d'autres, parce que ça tenait la route et on faisait un album, et qui a été en même temps un peu la chute du magazine, de tous les magazines d'ailleurs, parce qu'après les autres magazines, que ça soit À Suivre, que ça soit Métal Hurlant, etc., c'était pareil. Les gens pouvaient acheter le magazine et voir qu'il y avait quelque chose qui allait beaucoup les intéresser. Et après, ils disaient, j'achète plus le magazine, j'attends que l'album sorte. Et donc, ça a été la mort des magazines.
Jean-Claude Mézières, je vous remercie pour ce background sur votre œuvre et nous renvoyons donc les lecteurs pour de plus amples informations, encore une fois, au numéro 7 des cahiers de la bande dessinée.
Oui, puis ça, faut aller à la Bibliothèque nationale pour leur retrouver maintenant.
Où il y a quand même un excellent entretien entre vous,
oui,
Christian.
Enfin, il y en a eu d'autres, Dieu merci, il y en a eu d'autres depuis.
Jacques Glénat et Numa Sadoul qui ne sont quand même pas les premiers venus dans le...
Oui, d'accord, mais ils avaient 17 ans quand ils sont venus me voir.
Et des articles de Jean-Pierre Mondrévon et de Yves Frémion.
Ouais.
Voilà pour la petite histoire. La question subsidiaire que je vais vous poser, c'est la question que je pose à chacun de mes invités. Si vous aviez à choisir parmi tous les héros de polar qui ont pu vous influencer dans votre jeunesse ou encore aujourd'hui, lequel choisiriez-vous, lequel mettriez-vous en avant?
Ben ça, c'est une très mauvaise question pour moi, parce que j'ai lu et je lis beaucoup de romans policiers, et j'avoue que je ne... À part les Dashiell Hammett et les... avec Sam Spade ou je sais pas quoi, qui sont des noms qui me restent collés à la tête, le reste, j'aime le bouquin, et le nom du gars, j'en sais rien, je ne lis pas si, bien sûr, Simenon, etc., mais c'est pas mon personnage, l'inspecteur, machin, de... je sais même plus comment il s'appelle.
Maigret.
Le commissaire. Ce qui est fabuleux, c'est la qualité de la production de Simenon dans ses ambiances, comme ça. Donc, moi, je suis pas du tout pour donner un classement de personnages bloc, parce que j'en ai beaucoup que j'ai pas lu. Il y en a d'autres que j'ai lu.
Lesquels vous aurez le plus influencé?
Mais j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. J'en ai rien à foutre, moi. Le polar est pour moi une lecture de relaxation. J'adore, et en plus parce que je trouve que je lis très peu de science-fiction maintenant, parce que ça me prend la tête, et c'est surtout aussi que quand je commence à lire une histoire de science-fiction, je vois mes images, et je vois plus le bouquin que je suis en train de lire. Bon, je suis pas du tout indifférent au roman policier, mais de là à dire... je préfère... on peut parler d'auteur, alors déjà c'est un peu plus... mais tout ça, c'est très, ça dépend quel genre. Puis il ne faut pas tout mélanger entre James Ellroy, qui est des romans extrêmement glauques, ou au contraire David Lodge, qui fait des enquêtes tout à fait sophistiquées, universitaires. Enfin, bon, donc on ne mélange pas comme ça. Non, j'ai pas d'opinion sur les héros de romans policiers.
Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. King of the road, third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, don't pay no union dues. The smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. Every engineer on every train, and all of the children, all of their names.
And every handout in every town,
every lock that ain't locked, no one's around. I sing trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road. King of the road. King of the road.
Et pourtant, rappelez-vous bien, avant Valérian, vous envisagiez, d'après Glénat, de créer une aventure qui se passait ou alors au Moyen-Âge, ou alors une autre aventure qui se passait en 1900, dans le style Arsène Lupin, c'est-à-dire Maurice Leblanc.
Oui, mais là, ça, c'est vrai, mais c'est pas vrai. D'abord, parce que c'était envisager quelque chose. Et je dirais que là encore, nous avons été des précurseurs. C'est-à-dire qu'en fait, le Arsène Lupin n'était pas Arsène Lupin. Moi, je voyais beaucoup plus un genre steampunk qui aurait convenu à mon côté décalé, c'est-à-dire que je n'aime pas dessiner d'après des documents, la réalité, etc., où j'interprète des formes, des machines, des trucs comme ça. Et donc, c'était, j'envisageais. Et puis, c'est là où, en discutant avec Pierre, on s'est mis d'accord pour dire, mais ce qu'il faut, c'est qu'on fasse le futur. Allez, pas de table rase du passé, hein, et on démarre pour le futur.
En conclusion.
Attends, il y a une chose juste qu'il faut dire pendant que j'y pense. Il y a une grande expo rétrospective de tous mes travaux à la médiathèque de Limoges de la mi-septembre à la mi-novembre à peu près. Voilà, donc c'est dit.
Très bien, c'est déjà enregistré.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make those flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
En conclusion, est-ce qu'on peut dire que la science-fiction annonce la réalité d'aujourd'hui ?
Disons que la bonne science-fiction devrait pas annoncer, parce que c'est bien difficile d'annoncer, mais ce qui est intéressant, c'est de constater que Christin, dans ses scénarios, a flairé des choses dont on parle à une époque où le mot n'était pas... On a placé la grande catastrophe, lorsque je la dessinais en 1967-68, d'un New York futuriste ravagé par les ouragans et la fonte des calottes glaciaires. On avait placé ça en 1986 parce qu'on se donnait comme ça. C'était un futur dont on n'avait pas la moindre idée qu'on allait continuer à faire Valérian bien au-delà de cette date-là. Deux. Alf Lolol, bienvenue sur Alf Lolol, est un album qui est sorti en 1972 et qui parle de problèmes bien réels et bien terriens, de à qui appartient la Terre et à qui a le droit de travailler et surtout et de pas la saloper. Bon, donc je vais dire que là, la tendance écologique de cet album-là est complètement novatrice, parce qu'en 1972, on n'en était pas là. Hein. C'était en train de commencer un tout petit peu à percer.
Très précurseur.
Voilà.
Très précurseur.
Et un autre album encore qui est quand même assez rigolo, c'est Les Terres Truquées. Les Terres Truquées de clonage. Alors que le mot clonage n'est pas dans l'album, parce que je crois qu'il n'était pas encore vulgarisé dans le langage commun. Mais là aussi, on parle justement de clonage, de trucs comme ça, avec un recul évidemment qui n'est pas du tout scientifique. Hein, moi et la science, ça fait deux, quoi. Mais c'est marrant, et ça, c'est les qualités d'un vrai scénariste, c'est-à-dire d'anticiper les choses et se dire, mais tiens, on peut aller. Et je crois que j'oublie encore un événement qui aurait pu arriver, mais je ne sais plus. Mais enfin, bon, ça suffit déjà à faire notre bonheur de dire que on lance des idées, mais si, par exemple, j'achète le journal tous les matins et je téléphone à Pierre en lui disant, dis donc, t'as vu l'article dans telle page de tel canard, hein, ça ferait une belle histoire, hein. 3 ans plus tard, hein, je vais faire, le bouquin va sortir. C'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire.
Est-ce que une petite leçon qu'on peut pourrait retenir des aventures de Valérian, c'est que l'homme jamais ne se laisse dominer par la machine et que la femme ne se laisse jamais dominer par l'homme.
Bah oui, mais ça, je dois dire que ça vient surtout aussi par mes goûts graphiques. C'est-à-dire que, un, dessiner des robots ou des trucs comme ça, ça m'emmerde. Dessiner des mécaniques, ça ne me passionne absolument pas. Et je trouve ça très embêtant. Et par contre, dessiner une jolie jeune femme qui pousse sa petite colère et qui envoie chier son bonhomme et qui surtout ne se laisse pas faire, elle est belle, elle est intelligente et en même temps, elle est, c'est pas du tout l'héroïne comme on voit maintenant, les gros nibards et le flingue, quoi. C'est vraiment pas ça, l'Orline. Donc, voilà. C'est l'explication.
Le dernier mot, Jean-Claude Mézières. Valérian, les aventures de Valérian. Un conte philosophique.
Moi, j'en sais rien. Hein. Je ne relis pas les aventures de Valérian. Je les dessine. Je plonge dedans pendant 2 ans ou 3 ans pour faire un bouquin. Et après, peut-être qu'il faut que ça soit 20 ans plus tard que je dis « Ah bah tiens, finalement, c'était pas si mal celui-là. » Parce que moi, je vois que ce qui ne va pas. Et c'est vrai que je n'en ai pas une lecture de lecteur. Donc, conte philosophique, si vous, vous trouvez que c'est des contes philosophiques, oui, je pense qu'il y a un petit quelque chose comme ça dedans, mais c'est pas aux auteurs de le dire. C'est le public qui jugera si c'est un conte philosophique ou pas.
Jean-Claude Mézières, je vous remercie de cet entretien. Nous sommes à Paris, le 3 mai 2013. Gilles Astor pour 4 secrets, The Original One.
Salut, merci.
Merci à vous. Just the two of us.